bienvenue dans le podcast Business Club, le podcast du business sportif, marketing, opérations de com, entrepreneuriat. Nous allons passer en revue toutes les opérations de nos invités dans cette industrie. Athlètes en activité, sportifs reconvertis, chefs d'entreprise et toute personnalité gravitant autour de l'univers du sport business. Bonjour à tous, c'est le retour du Business Club et aujourd'hui on accueille le cofondateur de la page Instant Foot, Mehdi Hormat. Comment tu vas Mehdi ?
Super, et toi Rudy ?
Ça va super, je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui. Plaisir avec Dalia à mes côtés.
Bonjour à tous.
Est-ce que tu peux te présenter pour commencer ?
Du coup, enchanté, Mehdi, 26 ans, donc comme tu l'as plutôt bien présenté, je suis cofondateur d'Instant Foot. Instant Foot aujourd'hui, c'est un écosystème qui relaie l'actualité footballistique. On est présent sur Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, Twitch aussi un peu partout. Donc voilà.
Justement, j'ai lu dans une interview que tu voulais pas te présenter en tant que média, mais plus en tant qu'influenceur. Pour toi, c'est quoi la différence aujourd'hui par rapport à ton activité ?
Alors, tu vois, même peut-être. On me dit qu'il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, mais alors, plus aujourd'hui, avant, je ne voulais pas me présenter comme média, plus comme un influenceur ou même un pure player. Maintenant, l'objectif, c'est d'être maître de son contenu, donc notre stratégie à terme, plutôt que de relayer uniquement l'actualité, c'est voilà, de produire donc, des interviews, okay. D'accompagner même des marques et tout dans leur process et tout. Donc voilà.
Je veux revenir sur ton parcours. Yes. Il me semble que tu es issu d'une formation en école de commerce. Comment t'es venu l'idée de créer Instant Foot, puisque je pense que c'était pas...
Non, alors c'est un peu drôle, mais de base, j'ai créé Instant Foot avec mes potes de lycée. On était même pas bachelier. Et l'idée était pour moi avant d'être journaliste sportif. Donc ça a toujours été un rêve. Ce qui a été fait, c'est que j'ai créé ça uniquement pour APB à l'époque, pour mes admissions post-bac. Uniquement pour avoir un petit parcours ou un petit cursus qui me permettait d'avoir une petite expérience à mettre en avant, tu vois, pour appuyer ma candidature en école de journalisme. J'ai pas été pris. Okay. Voilà, j'ai pas été pris parce que voilà, j'ai fait un bac STMG et j'ai continué mon cursus de façon classique en faisant un BTS NRC, donc dans le commercial, okay. Tout en gardant Instant Foot, mais pour le kiff, quoi. Et avec le temps et avec le développement des réseaux sociaux qu'il y a eu entre 2014-2016, ça a pris et puis on a continué. Et puis c'est là où j'ai intégré ma formation en école de commerce, en découvrant un peu les métiers par hasard via ce que je faisais avec Instant Foot.
Ok. Comment tu gérais la scolarité et le développement du média finalement ?
Alors c'est pas un truc à dire, mais j'ai pas toujours été un bon écolier, tu vois. Okay. J'étais assidu, et puis après en études supérieures on avait le droit aux ordinateurs, au téléphone, c'était un peu comme beaucoup d'étudiants, tu vois, on fait genre travailler mais on est sur Football Manager ou quoi, mais voilà, je le faisais un peu de façon plaisir. Après voilà, il faut savoir aussi que avant, on n'était pas du tout structuré, donc on faisait ça quand on avait le temps, quand on pouvait. Il n'y avait pas spécialement une demande aussi en face de l'audience. Donc, c'était au feeling et puis ça a pris. Donc.
Okay. Justement, avant, vous n'étiez pas forcément structuré. Ouais. Et on parle souvent de la difficulté pour les médias de trouver un modèle économique viable. Donc, à quel moment ton activité, elle devient viable et à quel moment ça devient une activité principale ?
Alors, si on parle purement économie, alors au début, il faut savoir qu'Instant Foot, ça n'a jamais été une façon pour moi, en fait, de faire de l'argent. Mais genre, réellement, c'était plus une passerelle pour moi sur le niveau professionnel et ça m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire que grâce à Instant Foot, grâce à l'expérience que j'ai acquise sur Instant Foot, quand j'ai intégré mon école de commerce en management du sport, j'ai mis en avant cette expérience au maximum pour postuler un peu partout, soit auprès des institutions, donc Fédération Française de Foot, soit auprès même des annonceurs, voire même des agences. Alors qu'avant, je ne connaissais pas trop, mais tu vois, j'essayais un peu de chercher et de faire une map des acteurs du sport. Et je suis rentré chez Engie en sponsoring sportif. Donc c'est un peu grâce à ça que j'ai continué, à développer Instant Foot. En parallèle, je développais mon réseau via Engie pour trouver des marques et tout, mais ça n'a jamais été un truc pour développer de l'argent, pour faire de l'argent. Puis je crois que les premiers euros qu'on a fait rentrer, c'était on a créé ça en 2014. Je vais pas te mentir si je te dis que c'était en 2019, un truc du genre, ou 2020. Et c'était vraiment. Même pendant la Coupe du Monde 2018, on a quasi rien fait en termes d'argent. Et aussi parce que c'était une réalité avant, tu vois, les marques n'investissaient pas sur les pages ou peut-être aussi qu'on n'a pas démarché comme il le fallait, mais en tout cas. ça n'a jamais été, même quand on avait une audience super importante, on ne cherchait pas spécialement, tu vois, à faire de l'argent.
Ok. Et est-ce que ce changement, ça correspond aussi au changement de branding? Parce que je suis Instant Foot depuis assez longtemps.
Ok.
Et sur Twitter, je sais que vous n'aviez pas la même image de marque. Forcément, vous
ouais.
avez changé de logo,
Ouais,
etc.
non, bien sûr.
Est-ce que la viabilité de ton activité, ça correspond aussi au changement de branding?
Il faut savoir qu'avec justement avec mes associés, alors on travaillait, on a le même âge, hein. Donc on a le même cursus scolaire à peu près, on a les mêmes obligations, donc on a arrêté l'école en même temps. Et dès lors qu'on commençait à s'approcher de la fin de nos études, on s'interrogeait en gros, qu'est-ce qu'on fait d'Instant Foot? Grosso modo, je vulgarise. Hein. Et on s'est dit qu'il était intéressant pour nous, enfin il serait intéressant pour nous à l'époque de professionnaliser notre univers. Donc on a investi, donc comme tu le disais si bien, on a changé notre charte graphique, on a commencé à réfléchir à commercialiser, tu vois, notre audience, ou à la monétiser plutôt, mais de façon intelligente. On a très souvent, et même on est très souvent démarché par des sites douteux ou tu vois, un peu de tout et n'importe quoi pour un poste ou quoi, 500 balles et tout. Enfin, on n'est vraiment pas dans cette logique. Et un peu pour accompagner notre comment on appelle ça, notre professionnalisation, on accompagne, tu vois, les marques, les diffuseurs, un peu les acteurs du sport actuel, et même les sponsors des clubs, de l'équipe de France, etc., pour que notre raisonnement soit logique et pour que aussi on puisse aller vers là où on a envie d'aller, quoi.
Instant Foot aussi, ça fait partie des médias qui ont connu l'essor sur Twitter.
Ouais.
Avant, ce modèle, il n'existait pas forcément.
Ouais.
Qu'est-ce que tu dirais de cette évolution par rapport au monde des médias?
Alors, c'est plus, j'ai plus l'impression que c'est. Alors, ça découle pas forcément d'un truc qu'on a fait pour. Enfin, je veux dire, en gros, le succès, si je me permets de le dire entre guillemets, d'Instant Foot, il n'est pas dû à notre travail. On va dire qu'on a plus profité de l'évolution, de la recherche d'informations par les gens en général, tu vois. Les gens ne s'informent plus forcément que par la télé, que par les médias traditionnels. Et quand je dis médias traditionnels, c'est plus presse écrite, radio, TV. Mais ils cherchent aussi l'information en consultant les réseaux sociaux, ce qui est une réalité aujourd'hui. Et donc, on en a profité. On a eu aussi l'avant et l'après-Covid. Donc voilà, les gens se sont beaucoup plus connectés sur leur téléphone de façon vraiment large, hein, générale. Hein, je vais de Uber Eats aux réseaux sociaux, donc. Et donc on en a profité. Maintenant, on a une audience qui est très importante. L'objectif, c'est pas d'avoir une audience pour avoir une audience. Et je parle même pas de monétiser, tu vois. C'est plus d'avoir une audience avec qui on peut, tu vois, vraiment. Tu vois, on veut vraiment briser le plafond de verre, tu vois. On veut entrer en contact avec eux. Après voilà, on agit à taille humaine, il faut savoir qu'on est aujourd'hui, on n'est même pas 8-9, tu vois, sur l'écosystème, donc c'est très compliqué, tu vois, on a plein d'idées, mais c'est trop compliqué de les mettre en œuvre, déjà pour des moyens financiers, enfin à cause des moyens financiers, et surtout aussi les ressources humaines.
Là, tu nous parles de l'équipe que vous constituez.
Ouais.
En interne, comment ça fonctionne? Vu que avec les moyens que vous avez, vous ne pouvez pas forcément réaliser tout ce que vous souhaitez faire. Est-ce que vous faites appel à des prestataires? Comment ça se passe?
On agit plus aujourd'hui et très honnêtement en tant que bande de potes. Okay. C'est-à-dire que même, je vais aller encore plus loin, mon petit frère, tu vois, il est aujourd'hui, il kiffe. Okay. Je suis pas là pour me lancer des fleurs, hein, mais tu vois, mon petit frère, il a été un peu comme ce que j'aurais aimé avoir. C'est-à-dire en gros, un grand frère auprès de qui, tu vois, avoir un exemple, quoi,
un rôle modèle,
voilà, un rôle modèle, exact. Et au fur et à mesure de son parcours scolaire, donc aujourd'hui il est en BTS communication, donc il s'est dit pourquoi pas apprendre à utiliser les réseaux, maîtriser un peu les codes digitaux d'aujourd'hui et même de demain. Et donc c'est dans cette transmission naturelle que j'ai eu avec lui que ça s'est fait. Et de façon après similaire avec un pote qui m'a rejoint, puis après il m'a dit tiens, je te ramène un pote qui est bon dans ça, dans ça. Et on s'est structuré tu vois, de façon à ce qu'il y en ait un sur Twitch parce qu'il aime bien Twitch, un sur TikTok parce qu'il s'était dit que fallait qu'on se lance sur TikTok. Et quand on a besoin, on fait appel à des prestataires, notamment en matière de vidéo.
Ok. En fait, ton activité... Ah, excuse-moi.
À quel moment, justement, tu as voulu te développer sur les autres réseaux sociaux? Parce que à la base, c'était que Twitter. Ouais. Ensuite, tu t'es tardivement mis à Instagram. Vous avez quand
ouais,
même
exact.
Abonné maintenant ouais. sur Instagram, mais beaucoup moins sur YouTube, par exemple. Donc, à quel moment vous vous êtes
bah, en fait, ça s'est fait au fur et à mesure, comme je disais justement, c'est que les gens nous proposaient leur, tu vois, genre en gros leur expertise ou nous disaient, écoute, c'est le moment de se lancer sur Insta ou ça fait trop longtemps que vous êtes sur Twitter mais pas assez sur Insta. Donc, on s'est dit que c'était le moment. Et alors sur Instagram, ça fait très longtemps qu'on est dessus, mais qu'on n'a jamais activé. Donc là, ça fait bientôt 6 mois qu'on est à fond. Tu vois qu'il y a de la créa qui est faite, etc., etc. Sur YouTube, ça fait que 2 mois, même pas, je crois. Mais ça s'est fait vraiment un peu comme Instant Foot depuis 9 ans maintenant. C'est par hasard, tu vois. Donc maintenant, on essaye de limiter ça pour rendre la chose un peu plus stratégique. Et voilà, maintenant, tu vois, on essaye de se fixer des objectifs, datés surtout, chiffrés aussi, et pour atteindre ces objectifs, tu vois, vraiment, il y a un process qui est en place. C'est-à-dire que là, demain, on se dit qu'on veut créer du contenu, donc on va aller chercher ce contenu. On a plein de contacts aujourd'hui, on bosse avec des diffuseurs, des fédés, des clubs, même des attachés de presse de joueurs, parce que c'est dans leur intérêt de passer par Instant Foot pour les mettre en avant. Donc on se dit, bah, voilà, on a tous les outils, maintenant à nous de les utiliser, quoi.
Par rapport à tout ça, justement, même la manière d'effectuer le travail, je pense, dans le travail de fond, par rapport au journalisme de base.
Ouais.
Au début de l'activité d'Instant Foot, ce n'était pas forcément le cas, vu que la manière de consommer l'information était différente. C'était de l'information rapide, etc. Aujourd'hui, vu que vous changez de modèle et que vous devez produire plus de contenu, il y a forcément un changement par rapport à ça. Est-ce que tu estimes avoir aussi participé au changement des codes dans le journalisme ou,
Alors, je ne sais pas si c'est dû à notre présence, mais plus, enfin, je sais qu'aujourd'hui, la façon dans laquelle on travaille avec les diffuseurs, c'est qu'ils ressentent en gros que l'audience en général, donc quand je dis en général, c'est tout le monde, hein, bah, ils ont besoin de faire du contenu comme nous on produit, grosso modo. Aujourd'hui, il y a une réalité économique de leur côté qui n'est pas la nôtre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on est en mesure de produire du contenu sans forcément avoir 50 personnes derrière à payer et tout. Eux, aujourd'hui, donc, ils ont cette réalité, donc ils doivent faire tourner un site internet, ils doivent avoir des abonnements, ils doivent voilà, monétiser leur audience et tout. Moi, je pense, et quand je bosse avec eux, c'est que je leur dis il est nécessaire aujourd'hui de produire du contenu accessible à tous et sans forcément avoir à s'abonner ou quoi. Et ils le font plutôt bien, et même très bien. Tout le monde aujourd'hui, l'équipe, enfin, si tous les médias aujourd'hui se digitalisent, c'est qu'ils ont compris qu'il y avait ce cap à franchir. Ce qui n'était peut-être pas simple avant à imaginer, je pense, parce que des acteurs comme nous n'étions pas là, ce ne serait pas produit, mais voilà, aujourd'hui, la réalité d'aujourd'hui, c'est que...
Et justement, à quel moment tu as senti que tu étais plus prise au sérieux par ces marques, par ces partenaires ?
Alors, il faut savoir, et pour être très honnête, au début, on ne s'aimait pas du tout. Non pas que ça venait de moi, mais c'est plus eux qui ne nous aimaient pas, et c'est normal en quelque sorte. C'est comme les taxis qui n'aiment absolument pas l'Uber et tout. Enfin, c'est tout à fait normal. On a subi cette situation parce que... On arrivait, on était nouveau. Alors, on n'est pas concurrent, mais au bout d'un moment, on s'est dit qu'il serait intelligent de bosser avec eux pour mettre en avant bah, un peu tu vois, leurs icônes, en quelque sorte. Si, je dis une bêtise, Amazon Prime veut mettre en avant Thierry Henry ou n'importe lequel de ses intervenants, je pense à Karim Benani, etc. Bah, nous, en fait, on va permettre à Amazon Prime, en tant que donc Instant Foot, on va permettre au diffuseur de mettre en avant son intervenant numéro 1 et ça va participer après à la promotion de leur marque. Tu vois, c'est un peu crescendo. Plus voilà, plus il y a de la considération, en tout cas de l'audience en général, donc qui passerait par nous. Plus après, voilà, dans un second temps, les gens ont une petite sympathie ou un petit kiff en plus vers un Amazon, Canal+, et tout. Et c'est tout le temps comme ça qu'on fonctionne, même avec l'équipe, les journalistes aussi. Quand on relaye leurs infos, ils aiment bien aussi qu'on les mentionne. C'est même pas pour les sourcer, hein. Enfin, c'est plus parce qu'ils ont envie de se faire une réputation. C'est une réalité, et la réputation va au service après de l'employeur final, quoi.
Ok, là dans ce que tu dis, je comprends qu'au début vous étiez aussi un peu perçu peut-être comme un danger par certaines concurrences. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à surmonter en tant que média indépendant ?
Alors, c'est un truc tout bête, mais en fait, on n'a pas les droits vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, on peut parler de foot, mais on ne peut pas le montrer. Et c'est la vérité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les producteurs, enfin les diffuseurs payent très cher pour avoir les droits et diffuser le contenu qu'on regarde tous les jours. Mais aujourd'hui, s'ils ne le diffusent pas, nous, on ne peut pas le montrer. Et donc, nous, on n'est vraiment pas là pour... Et c'est vraiment un peu ce qu'on faisait au départ. C'est-à-dire que je comprends, en fait, leur inquiétude et puis même la haine qui était avant contre nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant, on rendait de façon gratuite. Tu vois, on filmait les buts et tout un peu à l'arrache. Et ça nous a valu des suspensions, donc des remises à zéro et tout. Donc, on a eu toutes ces étapes à franchir ou toutes ces petites galères. Mais voilà, au quotidien, on s'est toujours dit que... Et aussi, ce qui est important, c'est qu'au final, on n'a pas été perçus comme des concurrents. On a peut-être été perçus comme des concurrents parce que les médias se sont dit « Oh merde, putain, ils vont faire un truc où ils vont investir de l'argent. » Mais au final, voilà, c'est pas la réalité.
Comme ce que tu disais tout à l'heure, maintenant, vous voulez vous tourner vers la création de contenu vous-même. Justement, tu n'as pas peur qu'à ce moment-là, ils redeviennent un peu plus tendus, quoi.
Pour être honnête avec toi, non. Pas spécialement. Pourquoi je sais pas, parce que je suis un adepte du monde des bisounours, tu vois. Mais non, mais plus parce que je me dis que on
t'as
marche
pas
sur...
place un peu plus.
Ouais, et puis il y a de la place pour tout le monde aussi, tu vois. Je me dis que si demain on grandit de façon intelligente et qu'on n'est pas là pour dire ouais, on n'aime pas Canal, on n'aime pas Bein, on n'aime pas Tartampion, enfin voilà, ça sera bénéfique pour personne. Mais même, tu vois, demain l'idée serait pourquoi pas de faire une interview. Moi, je kifferais personnellement interviewer un mec de Bein ou un mec de Canal, tu vois, c'est kiffant. Et peut-être, nous, ce qu'on aime bien faire, par exemple, aussi, c'est montrer l'inverse du décor, le métier de journaliste et tout. Ce que aujourd'hui, ces médias font, mais nous, on est plus en mesure de le faire parce qu'on a un regard extérieur. Donc, c'est naturellement dans ce sens que vont les collaborations avec pas mal de diffuseurs, quoi. Donc, on est même de diffuseurs ou même de journalistes, on n'est vraiment pas en mode concurrent.
Ok.
Enfin, à ce jour, après, je ne sais pas si je nous souhaite de dire que demain on sera concurrent, mais voilà, aujourd'hui en tout cas. Non, chacun a sa place, on va dire.
Ok. Vous développez d'autres canaux de diffusion, d'autres canaux de médias sociaux, mais votre plus grosse base, ça reste Twitter. Est-ce que tu peux nous expliquer le système de monétisation sur une plateforme comme Twitter, comment ça fonctionne?
Alors Twitter, à la différence de Facebook et YouTube, voire même TikTok aujourd'hui et de façon plus large Instagram, ne rémunère pas ses créateurs. Alors aujourd'hui, Elon Musk a lancé des promesses présidentielles en disant que ça pourrait être le cas plus tard, mais en tout cas aujourd'hui c'est pas le cas. Nous aujourd'hui sur Twitter, on travaille avec plusieurs marques, donc des marques installées dans l'écosystème du sport ou non, de près ou de loin. Donc ça va de Cdiscount pour mettre en avant leur télévision parce qu'il y a des super matchs qui passent dessus, à EDF parce que EDF est partenaire de l'équipe de France et qu'ils ont envie d'amplifier leur message. On a des opérateurs de paris sportifs, on a Unibet aujourd'hui, enfin, il y a tellement de marques. On a Danone parce qu'ils accompagnent la Danone Nation Cup, on a eu Canal+, on a eu Amazon Prime, Domino's Pizza, parce que voilà, les soirs de match, on mange une pizza. Donc vraiment, on essaye de rendre la chose intelligente. Et c'est un peu par hasard que ça s'est fait. C'est jamais, en gros, de notre côté. Enfin, il n'y a jamais eu ce côté, cette démarche commerciale.
C'est pas vous qui les contactez ?
Ça s'est plus fait par hasard, ou plus parce qu'il y a un réseau, tu vois. Mes associés ou moi-même connaissions un tel qui bosse là. Et qu'on s'était dit que ce serait intéressant d'unir nos forces, voilà, autour d'un message. Et on a déjà eu des moments, évidemment, où on a prospecté ou démarché, où ça a démarché soit ça a débouché soit sur du positif ou du négatif. Mais voilà, c'est tous ces commerciaux qui sont assez et même la ligue de football professionnel, on a souvent bossé avec eux. Sur, je crois que c'était sur du e-sport. On bosse aussi avec franchement, il y a tellement de marques, mais c'est toujours, tu vois, un peu connecté au foot. Enfin, okay, même connecté, et c'est de façon logique. C'est jamais genre une marque de fringues qui arrive et qui dit ouais, voilà, 50% de réduction, achetez mes chaussettes et tout le machin. Enfin, c'est pas du tout comme ça. C'est plus vraiment lié toujours autour de l'univers du foot. Au final, c'est intelligent, quoi. Enfin, on trouve ça plutôt bien. Et ça nous permet de nous financer, tu vois, comme je vous avais dit, de pouvoir réinvestir dans des ressources matérielles, vidéo ou même prestataires. Et puis voilà, quoi. Donc au quotidien, c'est plutôt pas mal.
façon, dans tout ce qui est partenariat, collaboration, ouais. il faut une sorte d'ADN un peu similaire, enfin des valeurs communes pour pouvoir
bien sûr. Bien sûr, après, on est vraiment... tu vois, on est ouvert à toute collaboration. Maintenant, après, tu vois, les marques aussi, elles sont intelligentes. C'est-à-dire que s'il y a une marque qui n'est pas, qui se considère pas dans notre ADN, elle va pas nous démarcher, nous inversement. Mais si la connexion se fait à un moment, pourquoi pas quoi. Après, il n'y a pas 50 000 marques, tu vois, pour un influenceur ou même un créateur de contenu. On n'est pas un panneau publicitaire. Ouais, on est plus là pour trouver, on va dire... Allez, 3 ou 4 maximum partenaires majeurs en fonction de ce qu'on a aujourd'hui. Et si demain on a 50 000 contenus, naturellement que ça appellera un financement. Mais là aujourd'hui, pisse quoi à ce niveau-là.
Parce que lorsqu'on parle d'ADN aussi, vous avez une ligne édito propre à vous avec un aspect un peu décalé. Comment vous l'avez défini ?
Alors, ça, c'est vraiment parce que. Je connais, on va dire, un peu l'univers et je vois comment est-ce que les réseaux sociaux fonctionnent. En fait, on est, tu vois, avec notre audience, on est là pour dire qu'au final, on est des mecs comme tout le monde, des filles comme tout le monde. Tu vois, on n'est vraiment pas, on n'est pas là pour tweeter en costard cravate, quoi. Je me mens pas. Et puis aujourd'hui, il y a même, et on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, certaines marques, de façon plus large, ça fonctionne très bien pour eux. Tu vois, ils sont très bien connus. Je pense juste à Decathlon, aux produits laitiers, ou des marques vraiment en dehors du sport ou même en dehors de l'actualité qui sont là pour montrer que ça sert à tout le monde. Tu vois, tant qu'on n'est pas dans la vulgarité, au final, tout le monde prend le métro.
Bah, surtout
tout
que vous avez commencé Instant Foot un peu comme des supporters. Quoi, de
ouais, non, mais exactement.
Vous avez
c'est
gardé
exactement
la même
ça.
Énergie, en fait, maintenant, quoi.
Ouais, non, mais exactement. Et puis même dans les contenus vidéo qu'on fait, on essaye de transmettre cette énergie. C'est un truc tout bête, il y a 3 semaines je suis parti au Classico, on est parti avec une association de Sarcelles, enfin une association qui avait accompagné les vainqueurs de la CAN des cités de Sarcelles. Et dans la vidéo, tu vois, je suis là, je suis pisse avec eux, les mecs ils ont mon âge, on rigole, on a les mêmes délires, je vais pas me cacher et le faire en off quoi. Au final on rigole, on déconne, il y a des petits mots du familier, de l'argot et tout, mais bon, c'est jamais dans la vulgarité. Après, en tout cas pour l'instant, si ça fonctionne comme ça, tant mieux. Maintenant, le monde évolue et si demain, c'est moins accepté, et on sait qu'on a une responsabilité vis-à-vis de ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas rigoler de tout et n'importe quoi. Et c'est compliqué parfois parce que tu vois, il y a ce côté où on se dit, bon, je suis dans ma chambre ou n'importe où, hein, en vacances ou quoi, mais on sait que nos mots ont une valeur,
ont été
puissance, exactement.
D'une certaine manière.
Et on fait attention, on a déjà fait des erreurs, mais en tout cas, on essaye de les limiter, mais en tout cas, ce ton est choisi de façon... C'est-à-dire c'est plus comme ça qu'on attire les gens quoi. On se dit que ça nous ressemble, ça augmente derrière évidemment notre taux d'engagement parce que les gens, même s'il y a une audience importante, ils vont plus être sensibilisés à tout ça. Donc,
Ok. Personnellement, quand j'ai connu Instant Foot, je ne mettais pas forcément de visage sur la page.
Okay.
Est-ce que le fait aujourd'hui d'incarner le média, la page, ça a été un élément stratégique aussi ou...
Alors au début, il faut savoir que moi, moi je parle en mon nom, et même mes associés, on était plus de nature à se dire, bon, si on met un visage, c'est que pour le commercial.
Okay.
Voilà, parce que c'était plus une façon aussi de se protéger, parce qu'aujourd'hui, on sait que c'est pas simple d'avoir des opinions dans un sport aussi subjectif que le football, pour plusieurs raisons, parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est un nid à harcèlement. Il y en a qui n'ont pas de réseaux sociaux, tout simplement, enfin qui sont journalistes, mais qui n'acceptent pas d'ouvrir Twitter, tout comme les footballeurs, les sportifs même en général. Mais à terme, on s'était dit que ce serait pas mal pour notre audience, et plus parce que ça accompagnerait un peu le ton décalé qu'on a. Enfin, et vraiment, je dis de ton décalé, on est très sérieux, mais quand on apporte l'info, tu vois, on essaie de montrer qu'on est comme tout le monde. Et justement, c'est de montrer que c'est pas un robot qui est derrière. Et c'est cette image, c'est-à-dire que la première fois où on l'a fait, et je crois me souvenir, c'était qu'on avait fait un... On s'était dit qu'on allait faire un tirage au sort de jeu concours. Okay. Donc on se balance sur Instagram. C'était un gros jeu concours. Je crois que c'était une Play 5 qu'on avait offerte. Et c'était au moment où ça sortait. Donc sur Instagram, tout le monde se rue parce qu'à l'époque, les Play 5 se faisaient rares. Donc tout le monde se rue sur notre Insta et sur le direct. Et les mecs nous disent, ah, mais en fait, vous êtes des mecs comme nous, quoi, tu vois. Mais c'est un truc drôle. Et on est, même nous, tu vois, au final, on était surpris. Bah ouais, tu t'attendais à quoi? Tu vois, genre un mec avec 50 ordi devant lui et tout.
Mais ça montre professionnalisme de votre
ouais, et bien sûr. Je l'ai fait chez mon associé Valentin, à qui je fais un coucou. On était dans sa chambre, tu vois. On avait posé le téléphone sur l'ordinateur pour qu'il soit droit. On rigolait, on déconnait, on faisait une foire aux questions, on rigolait, on disait ce qu'on faisait. Je crois que je sortais du travail à l'époque, que j'arrêtais arrivé en retard pour le live. Donc, aujourd'hui, c'est plus dans ce... En fait, c'était le petit élément, enfin le petit déclic. On s'est dit que ce serait pas mal de le faire. Après, aujourd'hui et même demain, moi j'ai envie, non pas que ce soit moi ou à quelqu'un, mais j'ai envie et j'aimerais bien qu'il y ait une tête de gondole, quoi. Okay. Un peu comme tous les médias ont. Beansport aujourd'hui, ils ont Dafonseca, Canal Plus avant, ils avaient Margoton. Enfin voilà, c'est ça sert plus aux médias que ça ne le dessert au final.
Ok. Je vais revenir sur l'aspect Twitter et ouais. On va reparler d'Elon Musk.
Ok.
Pour toi, quel danger ça pourrait, enfin quel impact ça pourrait avoir?
Alors, notamment sur, on avait vu sur le plan des certifications par exemple.
Ah ouais, ça c'est un truc qui fait beaucoup parler. Ouais. Alors c'est un sujet, tu vois, nous concernant en tant qu'Instant Foot. Alors il faut savoir que moi je me suis toujours dit que Twitter, bon certes ok, je mange mon pain, enfin ça me fait gagner mon pain et tout, mais c'était un réseau où c'était dommage que les créateurs de contenu ou même que ceux qui font le réseau ne soient pas défendus ou mis en avant, un peu comme YouTube. C'est-à-dire que YouTube aujourd'hui, si tu as une audience pour limiter les fakes, etc., on te certifie. Il y a deux étapes, enfin il y a deux différentes certifications. Je crois qu'il y a une certification bleue, une pastille grise. C'est un peu dommage que Twitter n'ait pas fait ça parce que derrière nous, ça nous a causé des problèmes. C'est-à-dire que Twitter, c'est un réseau qui fonctionne sur la viralité, donc on a eu beaucoup de fakes.
Bah ouais, en fait ça diminue la marque en fait.
Mais carrément ça diminue la marque et tout. C'est compliqué pour des gens comme nous. Je dis pas que c'est compliqué pour même pour des joueurs, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des joueurs ou des athlètes ne sont pas tous certifiés, et quand je leur parle ou quand je parle à leur RP ou n'importe qui, ils me disent ouais, donc aujourd'hui on est obligé d'attendre que Twitter nous certifie. Alors sur le sujet de certification, il faut voir ce que ça... Je suis sûr qu'Elon Musk n'est pas bête, hein, donc il y aura forcément des barrières à l'entrée, ça va pas uniquement être sur le prix. Peut-être qu'au final, il veut se dire que c'est une machine Afrique dont tout le monde se certifie.
Mais dans ce cas-là, ça n'a plus de valeur.
Ouais, voilà, dans ce cas-là, ça n'a plus de valeur. Après, il faut voir. Je suis très attentiste à ce niveau-là. C'est-à-dire que je n'ai pas forcément d'avis. Mais si demain, il y a des barrières à l'entrée, si demain, ça me permet d'être certifié, de me protéger surtout, parce que aujourd'hui, la réalité est que voilà, demain...
plein de comptes parodiques aussi,
voilà, des comptes parodiques, ouais. Ça fait j'avais le sujet avec un petit média très sympa, hein, qui était drôle, qui faisait des mangas et tout, et qui avait le même logo que nous, mais qui diffusait des fake news parodiques,
ouais.
Et du coup autour du foot mais des mangas, donc c'est-à-dire qu'ils rigolaient en disant ouais, il y aura je sais plus quoi d'Inazuma Eleven, enfin je connais pas le manga, mais c'était un truc qui hypait tout le monde. Et derrière, après, tu vois, nous, ça peut nous retomber dessus. C'est-à-dire que même demain, ou même hier, il y a des jours où on a relayé des infos, et tu vois, on a souvent eu des avocats qui nous envoyaient des mails en donnant les droits de réponse. Tu vois, en gros, okay. Quand on donne une info, peut-être elle est fausse, elle est vraie. Bon, après, on sourçait, mais tu vois, on avait les droits de réponse. Et tout comme demain, ça peut être le cas si un de ces avocats tombe sur une... tu sais, il peut avoir un manque de discernement et se dire, ok, putain, mais c'est un fake. Enfin, il sait pas si c'est un fake, et il voit, il arrive qu'au final. Qu'ils m'appellent et ils me disent écoute, c'est quoi ça? Et au final, ça me retombe dessus. Voilà, c'est compliqué. Surtout qu'aujourd'hui, on a une marque déposée. C'est-à-dire que c'est très simple, en fait. Voilà, c'est très simple, en fait, de retrouver l'identité, même si au final, on voit que c'est un fake. Moi, ça me ferait perdre du temps. Et puis, mais en tout cas, voilà, j'espère que son rachat sera positif pour le réseau, okay. Et qu'il amènera des choses positives. Mais c'est beaucoup trop frais pour que je donne, ouais, un avis sur la chose, quoi.
Et par rapport à tous ces aspects de comptes parodiques, d'amalgame,
ouais,
est-ce qu'il y a déjà eu des procédures de justice qui ont été faites à votre encontre ou le contraire? Est-ce que vous avez déjà eu recours à la justice pour éviter ce genre de problème?
Non, pas pour le parodique. Non, aujourd'hui, il y a des affaires, on va dire, qui relèvent de la justice, mais vraiment pour d'autres sujets et qui sont en cours. Mais sinon... il y a rien, c'est-à-dire on s'est jamais pris la tête, tu vois, quand il y a quelqu'un qui agit de façon parodique, même on essaye de tourner ça en dérision, tu vois, et on répond au mec en mettant un smiley qui rigole ou qui pleure ou quoi, ou sinon bah tu vois on envoie un message gentiment, ou sinon même on prévient notre audience que c'est un fake, que il faut faire attention. Donc ça a été le cas notamment lors de la Super League, tu vois, quand il parlait de la Super League, il y a des infos fake de partout. Donc on avait, je sais même pas, des bêtises et j'en ai même pas, tu vois, des trucs drôles qui après, ou même tu les découvres comment, tu ouvres ton Snapchat ou ton Instagram et tu vois des gens qui réagissent sur un fake,
ouais.
Et tu dis mais attends, mais c'est pas moi ça et tout, et les gens ne le voient pas parce que tu vois, ils voient pas que dans l'arrobas c'est écrit différemment ou quoi, mais bon après c'est le game quoi.
Ouais. Ils prennent pas forcément aussi le temps d'aller chercher l'information plus loin.
Et ça peut-être que aussi c'est de notre faute, tu vois, peut-être qu'on se dit qu'aujourd'hui on a servi de l'info tellement facilement aux gens que la fake news aussi, tu vois, elle est même pas qualifiée quoi. Les gens ne font plus forcément attention.
Ouais, ça revient aussi à ce qu'on disait tout à l'heure sur les codes journalistiques, ouais. Le fait de consommer de l'information rapide de manière différente.
Et pour ça m'a beaucoup aidé. Alors, il faut savoir que moi j'ai toujours continué, tu vois, mes études et même mon activité pro, c'est-à-dire qu'après avoir obtenu mon master, je suis parti travailler chez Auto Hebdo. Donc c'était un média dans le sport auto, enfin qui existe encore. Et bon, j'en étais community manager, mais je travaillais au quotidien avec des journalistes et de façon un peu conflictuelle, mais tu vois, professionnelle, on se disait, voilà, pourquoi est-ce que les réseaux sociaux, c'est différent de journalisme ? Parce que nous, tu vois, on apporte l'info en 280 caractères, quand un journaliste, tu vois, il a un pavé à écrire, ouais, et d'ailleurs, super bien fait, voilà, exactement. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé, tu vois, de la façon d'apporter l'info, donc plus ou moins détaillé, mais pas trop non plus, parce que voilà, il faut derrière donner envie aussi au lecteur ou même à la personne d'aller vraiment au fond l'info. Mais aujourd'hui, la réalité, elle est telle qu'elle. C'est que maintenant, les gens, quand ils veulent un sandwich, ils le veulent dans 2 minutes, tu vois, tout prêt, tout préparé, ils veulent le beurre. On n'est pas là pour non plus transformer le monde, hein, attention, mais on est plus là pour aller dans le sens des demandes des gens, quoi.
Ok.
Et en tant que marque déposée, est-ce que tu as un background de commercial, tu as fait beaucoup de ventes dans ta vie, notamment, dans ta jeunesse un petit peu
Ouais.
T'as travaillé un peu dans des stages de régie publicitaire pour le marché des commerçants, t'as fait un peu de vente, plus jeune en poissonnerie.
mais ça c'est vraiment le hasard. Alors c'est-à-dire
mais t'as dit que ça t'avait quand même vachement formé.
Ouais, mais ça m'a formé, tu vois, pour vendre mon produit.
Voilà. Et est-ce que tu t'es déjà posé la question d'étendre ta marque en vêtements,
En fait, aujourd'hui, je me dis que c'est pas possible, entre guillemets. Pourquoi ? Parce que notre audience n'est pas trop sensibilisée à nous, quoi, tu vois.
À la différence. 1,4 million de
bien sûr. Mais enfin, tu vois, je vais dire une bêtise. Si TF1 lance des t-shirts, personne ne les achète. Tu vois, vois. Moi le premier non plus. Tu vois, alors que je regarde TF1 vendredi tout premier et tout. Mais tu vois, c'est
sur le long terme. Est-ce que tu as pensé
Peut-être. Après, ça dépend de comment est-ce que
tu lui donnes une idée, peut-être.
Non, ouais, c'est vrai que si je sortais des t-shirts à 1 euro, j'aurais riche. Ouais, après, alors il faut savoir aujourd'hui que on a des t-shirts, mais pour nous. Tu vois, c'est-à-dire aujourd'hui j'ai des t-shirts pour on a fait une vingtaine, une trentaine de t-shirts juste pour nous et nos potes. Mm-hmm. Sont plutôt sympas, c'est des t-shirts en coton bio en plus et tout, tu vois ils sont sympas. Non, on s'est dit plus que c'était un t-shirt plus, et à la base l'histoire c'était sur des events type on les porte et tout pour se faire reconnaître, pour tu vois marquer la
c'est
la
du présence branding,
voilà, la merch, c'est vraiment du branding. Même peut-être, tu vois, demain si je fais un micro trottoir, ok, je le porte et tout. Maintenant on n'est pas comme une équipe e-sport, tu vois, où les mecs ils ont vraiment, tu vois, des t-shirts et là ils vont les acheter, les gens. Peut-être un jour, je sais
à
pas
terme,
après.
Voilà, c'est possible.
En tout cas, aujourd'hui, c'est pas spécialement dans notre. Ouais. En tout cas, c'est. Mais voilà, tu as ce background poissonnier et tout.
C'est intéressant parce qu'on se dit que c'est des parcours tout tracés, mais pas forcément. En fait, toutes tes expériences passées, elles t'ont servi à ce que tu fais aujourd'hui.
Ouais, mais c'est plus, tu vois, c'est vraiment plus pour le quotidien, parce que tu vois. Bon, après en parallèle, j'ai mon agence de com, mais c'est vraiment, tu vois, pour apprendre à traiter avec les clients. Après aussi, c'est une réalité. Ouais. J'avais besoin d'argent, j'avais besoin de payer mon permis et mon voiture, donc j'ai choisi le premier job qui s'est présenté à moi.
On a creusé. Hein.
Ouais, de ouf. Mais du coup, après, ce sujet-là, on va dire que c'est dans un tout petit coin de ma tête, mais ce serait un bel objectif, ce serait un bon kiff d'avoir des t-shirts qui s'écoulent à plusieurs exemplaires.
On va parler de tout autre chose.
Ouais.
Si tu devais nous parler du moment le plus marquant de l'aventure Instant Foot.
Le moment le plus marquant ?
Ce serait quoi ?
Tu sais quoi, je vais te donner un positif, un négatif. Comme ça, on en a un pour les deux. Alors, positif, je crois, c'était le premier jour où on a fait une OP, où on a reçu un mail d'une marque. C'était Adidas à l'époque, donc c'était l'Euro 2016. Et c'est aussi important de le dire, parce que l'Euro 2016 a... était c'était important pour nous, parce que voilà, l'événement était en France, Les gens commençaient, tu vois, l'Euro, c'était à 15h, les matchs à 15h, 18h, donc les gens se mettaient sur leurs réseaux sociaux et tout. Donc on a été contacté par Adidas à l'époque pour présenter le ballon officiel. Et c'est là où on a rencontré, enfin, c'était la première agence avec qui on a bossé, qui nous a ramené plein de trucs d'ailleurs après. On a bossé avec plein d'influenceurs qu'on. Enfin, tu vois, avant on avait peut-être 10, 15, 20 000 abonnés chacun, et maintenant, tu vois, aujourd'hui, les mecs, je pense. Enfin, j'ai plein de noms en tête, tu vois, j'ai Vinsky, j'ai The Space, et des mecs qu'on s'est rencontrés, entre guillemets, on était tous petits dans à notre échelle. Ouais. Voilà. Et avec le temps, voilà, ça, c'était l'un de nos premiers. Enfin, c'est notre moment marquant. Positif. Après, pour le négatif, c'est la suspension. Ah ouais. La suspension de notre compte. Alors, pour la petite histoire, et c'est assez drôle, c'est qu'on s'était fait suspendre en 2019. Ouais, en janvier 2019. Ouais, exactement, janvier 2019. Bon, admettons que ce soit ça. Janvier 2019, on s'était fait suspendre. Pourquoi ? Parce qu'on avait mis un extrait du Palma Show. Tu vois, genre une parodie de Laurent Paganelli. On la met... de façon vraiment à rigoler aussi et de montrer bah du coup que c'était cool, l'émission est cool, que TF1 c'est super et tout et tout, sauf que leurs bots ils ont pas kiffé. Donc ils nous ont strike et tout, et c'était une bataille juridique, tu vois, pour le coup, parce que et j'ai oublié de le mentionner, mais tu vois, c'était une bataille juridique puisque c'est la première fois où on a décidé de contacter des avocats. On a contacté des avocats spécialisés en la matière de protection droits d'auteur, etc., sur les réseaux sociaux, puisque aujourd'hui c'est une réalité, il y a plein de streamers qui stream et qui soit se font strike parce qu'ils mettent du contenu protégé ou quoi. Et du coup, on a perdu un mois, je me souviens, de notre activité. Et ça nous est arrivé encore après, de façon assez ironique, mais c'était beaucoup plus rapide. C'était avec Sony. Alors, on a mis une vidéo de Paul Pogba qui dansait.
Ok.
Donc, qui faisait plein de bêtises, tu vois, des dabs et tout chez lui. Sauf qu'il y avait une musique en fond. Et pareil, les bots n'ont pas kiffé. Et donc, maintenant, c'est... Voilà, donc et à l'époque c'était le confinement et c'était avec Sony qu'on avait dû se battre un peu. Et c'est pas n'importe qui, mais après voilà, on a fait valoir nos droits, on a récupéré notre compte, c'était un peu compliqué, on a stalké qui était l'auteur du signalement, jusque l'appeler, jusque l'embêter, etc. Et mais voilà, c'est des moments marquants mais qui forgent. C'est-à-dire que tu vois, la première OP qu'on a faite à l'époque avec mon associé, on savait pas où on voulait aller dans le secteur scolaire. Et après, on s'est intéressé à l'école dans laquelle on a continué ensemble, donc la Sport Management School en management du sport. Parce qu'on s'est dit, attends, c'est kiffant, on kiffe le commerce, on kiffe l'événementiel et tout. Et ça rejoint le côté sport. Et du coup, après, pour l'autre côté négatif, ça nous a forgé parce que d'un point de vue professionnel, maintenant, on fait attention à ce qu'on met, tu vois. On essaye vraiment d'être intelligent et d'être plus malin sur certains sujets. Donc voilà, au moins il n'y aura pas de jaloux, il y aura du positif, du négatif, comme quoi.
C'est là-bas que tu as appris le management, l'e-sport, le management, le sponsoring dans le sport. Ouais.
C'est
vraiment rentré dans le sport business.
Ouais, c'est vraiment, c'est via cette formation, vraiment, c'est l'un des rares moments où j'ai vraiment kiffé ma scolarité. Parce que, c'était pas forcément dû à l'école qui était très bien, hein, mais c'était plus surtout au niveau de la formation que j'adorais. Et après aussi, donc je bossais en alternance. J'étais en alternance chez NG au sponsoring sportif. Franchement, j'étais vraiment pas à plaindre. J'avais une super alternance, un super tuteur, des accès. Franchement, j'ai fait. À l'époque, on était partenaire de la Fédé de foot, de l'Olympique Lyonnais féminin, du PSG, de Roland Garros. Donc, moi qui fais ça que vraiment derrière une vitrine, j'arrive et je suis lancé dans le grand bain et j'ai vraiment kiffé. J'ai adoré, je me suis éclaté. D'ailleurs, toujours en contact avec les gens avec qui je bossais avant.
Okay.
Et vraiment de façon amicale. Hein, et non pas. Et c'était. C'est un univers que j'adore. Aujourd'hui. Donc voilà. Après,
Okay. Là, on va parler un peu plus de l'actualité.
Ouais.
Il y a la Coupe du Monde qui arrive dans quelques jours. Comment va s'articuler le quotidien d'Instant Foot à cette période-là et quel type d'activation ?
Alors, nous concernant, on sera sur place. Alors, toute la compétition, on partira et ce sera le premier événement majeur qu'on couvrira.
Okay.
On a couvert des matchs de Champions League, des matchs de Ligue 1, etc. etc. L'opportunité qui s'est présentée à nous, on l'a exploité plutôt. Ça nous coûte aujourd'hui beaucoup d'argent, il faut être honnête. C'est de l'investissement personnel pour la plupart du temps. Parce que du coup, pour pouvoir raconter l'ironie, c'est qu'à la base, je devais partir avec mon cadreur, qui aujourd'hui est un de mes meilleurs amis. Donc on devait kiffer ensemble. Maintenant, il a fait pas mal de trucs qui font qu'aujourd'hui, chez Bein Sport. Donc, il est cadreur chez Bein Sport et il partira aussi pour la Coupe du Monde. Donc, c'est le kiff total. Donc, on se verra là-bas. Et, Et donc après, donc derrière chaque côté négatif, on va dire, il y a un côté positif, c'est que l'aventure humaine, elle est tellement forte chez Instant Foot, c'est-à-dire qu'il y a 4 mois, on a pris un mec qui kiffait le graphisme et tout, et qui, on s'est rendu compte que c'était un crack de fou, hein, vraiment, il fait des trucs de ouf. Et il est en BTS communication, je lui ai proposé de rentrer en stage et tout chez Instant Foot pendant 2 mois, parce qu'il avait besoin de valider son cursus. Et donc je lui ai dit, au bout du compte, bah écoute, tu sais quoi, Randy peut pas venir avec nous, bah... Voilà, tu viens avec nous. Donc, le mec est en kiff total. Donc, on partira couvrir la compétition pendant 1 mois, à la fois sur place. Et donc, c'est-à-dire, donc, il y aura du contenu vidéo qui sera produit là-bas. Et aussi, derrière, de façon comme back-office, quoi, classique, couverture quasi quotidienne. Évidemment, on compte travailler avec des marques.
Okay.
Donc, il y aura des marques qu'on accompagnera. C'est beaucoup plus compliqué que ce que je pensais, que ce que j'imaginais, parce qu'aujourd'hui, il y a le Qatar bashing, enfin vous voyez tous, ouais. Les marques ne veulent pas trop s'associer, non pas à la Coupe du Monde, mais plus au fait que la Coupe du Monde, c'est... Ouais. Et c'est un truc qu'on n'a pas anticipé, parce qu'aujourd'hui, heureusement, on n'a pas budgétisé, on s'est pas dit, bon, ok, pour la Coupe du Monde, on va aller chercher, je dis une bêtise, 10, 15, 20 000 euros de budget pub, mais c'est plus parce qu'aujourd'hui, c'est une réalité chez tous les annonceurs ou même les diffuseurs, tu vois, c'est-à-dire que TF1 peut-être avait prévu de vendre des spots pub et tout, mais c'est compliqué aujourd'hui. Mais donc voilà, écoute, on va voir ce qu'on peut trouver. Il nous reste 10 jours, 10-15 jours. On verra ce qu'on peut trouver.
Vous avez commencé à avoir des...
Ouais. Alors, je sais même pas. Là, tu vois, de tête, j'ai pas forcément de nom à donner pour plus des raisons de confidentialité, parce que ça m'a encore fait. Mais typiquement, l'idée, c'est de partir avec un équipementier. Enfin, okay. Même pas un équipementier, mais plus un revendeur de fringues de sport. Voilà, après la réflexion elle s'est plus articulée de façon intelligente en se disant voilà, ce serait pas mal de produire du contenu pour ce type de marque, etc. Et qui sait, et d'ailleurs, bon pour la petite confidence, moi j'ai toujours voulu mettre en avant la formation via Instant Foot, c'est-à-dire que j'ai travaillé aussi avec mon école, alors même que j'étais étudiant, j'avais mon école en tant que client sur Instant Foot, c'est-à-dire que je mettais en avant mon côté aussi ambassadeur et aussi le côté des autres ambassadeurs sur la promotion des métiers du sport, parce que c'est un truc qui intéresse plein de gens aujourd'hui, on se rend compte que travailler dans le sport, il y en a plein qui en sont fans, c'est en plein essor, et donc l'idée c'est que partir couvrir une Coupe du Monde en tant que community manager, ce serait pas mal de le mettre au service d'une école et de montrer que on peut aujourd'hui atteindre voilà, exactement. Alors on n'est pas là pour vendre du rêve, mais c'est un truc que j'envisage de faire, et si ça se fait sur cette Coupe du Monde et sur plein d'autres événements, pourquoi pas, quoi.
Et c'est un partage d'expérience.
Ah, totalement, exactement.
Pour conclure, je te demanderais quelles ambitions tu vois pour Instant Foot.
Uh-huh.
Et si tu devais faire une rétrospective aussi de votre parcours.
Alors, ambition, vous allez peut-être rigoler, mais c'est d'avoir des bureaux, okay. Tu vois, parce que c'est très compliqué de sensibiliser son personnel. Alors, je suis un pro télétravail, hein, mais j'ai rien contre ça et tout, j'adore, au contraire, et je l'ai même adoré quand j'étais à l'époque en alternance ou même embauché à droite à gauche. Mais il y a besoin de ce contact humain, tu vois, pour produire du contenu surtout. Donc, à terme, moi, ce serait ça. C'est-à-dire que 2023, c'est un cap que je me suis fixé. Donc avoir des bureaux ou avoir une petite quitte même, tu vois, prendre un Airbnb une fois par semaine et tout pour se poser, réfléchir exactement. Une rétrospective, c'est qu'on est allé doucement, tu vois, on n'est pas allé assez vite, mais le côté positif, c'est qu'aujourd'hui, et quand je compare avec ce qui se fait à l'étranger, un peu à l'image d'un 4-3-3, bière, football et tout, c'est qu'aujourd'hui il n'y a personne qui fait ça en France, tu vois. Peut-être parce que c'est la langue, parce que 4-3-3 c'est néerlandais, et que du coup le fait qu'eux parlent anglais, c'est facile. Mais aujourd'hui en France, tu vois, ce qu'on a envie de faire nous aussi, c'est d'aller chercher même les communautés francophones en Afrique. Et c'est déjà parce que, en tant que, tu vois, c'est toujours lié évidemment aussi à l'image un peu de l'associé, c'est-à-dire que moi, étant d'origine marocaine, je me dis qu'il y a vraiment des trucs à aller chercher là-bas, ça se développe, donc ok, on va aller s'installer en tant que média ou en tant que relayeur de contenu. Et donc, tu vois, c'est plus dans cette réflexion qu'on fait notre rétrospective. On se dit, on a pris 9 ans pour faire tout ça ou que ça. Là, il nous reste un an ou deux pour faire tout ce qu'on a fait en 9 ans et en allant chercher à droite à gauche.
Ok. Voilà, merci à toi, Mehdi.
Merci à vous. C'était top. C'était top. J'espère que vous avez kiffé. Puis,
c'était super.
Follow Sport Stratégie.
Merci à toi, Dalia. Et merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve pour un prochain numéro du Business Club. À bientôt.